Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine, dans Escale, nous recevons Joseph Dice, le président de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour ce Suisse engagé, l'Assemblée générale représente l'organe international le plus démocratique. Elle a un rôle pertinent et important à jouer dans la gouvernance globale. Un rôle que Joseph Dice a tenté de renforcer au cours de son année de mandat. Alors, sans tarder, on l'écoute tirer le bilan de son expérience à la tête de l'Assemblée générale.
Ce qui est important, c'est surtout les réussites qui peuvent compter pour les Nations Unies, pour la communauté des peuples, pour l'humanité. Et je dirais que cette année a été riche en expérience, mais aussi riche en innovation. Alors au niveau des événements phares, je citerai d'abord l'arrivée d'un nouveau membre, le Soudan Sud, qui a mené son référendum avec beaucoup d'engagement de l'ONU et aussi du Conseil de sécurité en particulier, mais aussi de nos troupes, de nos spécialistes, de nos aides. Référendum au début de l'année, déclaration de son indépendance au début juillet et admission à l'ONU comme membre de plein droit une semaine plus tard. C'était, pour moi, qui ai été sur place avec le secrétaire général, une somme d'émotions considérable. Et je crois que, pour l'ONU, mettre fin à une guerre civile qui a coûté des centaines de milliers, je crois même des millions de vies, est quand même une histoire qu'on peut considérer à succès pour les Nations Unies. Mais les Nations Unies me plaisent aussi lorsqu'elles s'engagent pour nos valeurs qui doivent être proclamées partout. Nous l'avons fait, par exemple, en suspendant la Libye, pour parler de l'Assemblée générale, bien sûr, suspendu la Libye de sa qualité de membre au Conseil des droits de l'homme. C'était un message fort. Peut-être certains diront que sur le lieu même, ça n'a pas changé beaucoup. Mais je crois pour tous ceux qui sont dans une prison ou qui souffrent dans leur dignité d'une manière ou d'une autre, c'est un message d'espoir qu'à quelque part dans ce monde, la communauté internationale, la communauté des peuples se réunit pour proclamer haut et fort les droits de l'homme. C'était un autre grand moment de cette année. Et comme ça, il y en a eu encore de nombreux, que ce soit le sommet de la jeunesse, le sommet sur le sida, ou encore lorsqu'on s'est fait fort pour la biodiversité. Je crois donc que sur le plan thématique, l'Assemblée générale, cette année, a fait un gros travail et que cela certainement va pouvoir porter des fruits dans les années qui viennent.
Est-ce que vous avez pu atteindre tous vos objectifs ?
Je me suis fixé toute une série d'objectifs et je crois pouvoir dire que pour l'essentiel, oui, on y est. Je m'étais bien préparé et j'ai tous les jours veillé à ce qu'il ne puisse pas y avoir de surprises et le plus souvent, nous y avons réussi. Mais si nous avons pu accomplir notre travail, c'est aussi grâce à une équipe autour de moi qui était très motivée, qui était multinationale, puisque nous avions des représentants de tous les continents, et aussi grâce à la bonne collaboration, que ce soit avec les services de l'Assemblée générale et du secrétariat, mais surtout avec le secrétaire général lui-même, ou encore avec les présidents du Conseil de sécurité, ou encore avec l'ECOSOC et beaucoup d'autres organisations à l'intérieur de notre maison. Et enfin, l'année s'est bien déroulée aussi grâce à l'apport de tous nos membres. J'ai eu d'excellentes relations avec tous nos représentants permanents, avec leurs collaboratrices, collaborateurs, et j'espère avoir pu leur transmettre un peu de mon enthousiasme et de mon énergie.
La gouvernance globale est une des thématiques qui vous tient à cœur. Et vous dites aussi de l'Assemblée générale que c'est l'organe international le plus démocratique. Alors, est-il pour autant pertinent, est-il aussi adapté à jouer un rôle dans cette gouvernance globale ?
Nous sommes placés devant des défis qui sont globaux, c'est-à-dire qui ne peuvent être résolus par des actions isolées, individualistes, mais qui nécessitent des stratégies globales. Je pense au réchauffement climatique, à la paix et à la sécurité. Je pense à la question du terrorisme, je pense aux crises financières et beaucoup de choses de ce genre. Deuxièmement, nous sommes placés aussi devant un casse-tête, dans la mesure où nous devons réunir ou rendre compatibles deux principes divergents. L'un, qui est l'article 2 de notre charte et qui affirme haut et fort la souveraineté totale de nos membres. Et puis en même temps, si on veut mener une action commune, il faut parfois amener des membres récalcitrants, opposés, à joindre l'effort commun. Alors comment aller de l'avant si on veut quand même respecter la souveraineté nationale? Eh bien, je pense que si l'Assemblée générale, peut-être sur certains sujets, les sujets économiques par exemple, ou encore si l'Assemblée générale au niveau de l'action rapide n'est pas la mieux placée et pour lesquels aspects il faut faire intervenir d'autres dimensions, lorsqu'il est question de la légitimité, c'est à l'Assemblée générale qu'on doit la trouver. Donc, ma vue des choses n'est pas une Assemblée générale qui ferait tout et qui déciderait de tout pour ce qui est de la gouvernance globale, mais je pense que l'Assemblée générale peut être le toit qui abrite tous les efforts qui visent à trouver des solutions aux grandes questions de l'humanité au cours de ces temps.
Alors justement, vous avez parlé de souveraineté nationale. Que pensez-vous de la décision du Conseil de sécurité d'autoriser une action en Libye sur la base de responsabilité de protéger?
C'est précisément une façon d'aborder la question de la gouvernance globale en matière politique lorsqu'il s'agit de garantir la paix et la sécurité. C'est un raisonnement où l'on part d'abord du principe de la souveraineté en affirmant que c'est le rôle de chaque gouvernement d'assurer la sécurité, la protection de ses citoyennes et de ses citoyens. Et dans un deuxième temps, on dit, mais si ce gouvernement n'y parvenait pas, ou encore s'il ne le veut pas, voire même s'il va contre ses propres citoyennes et citoyens, alors, il y a une responsabilité des voisins de la région, ou encore, si ceux-là non plus ne peuvent ou ne veulent, une responsabilité de la communauté internationale. Qui peut aller contre la souveraineté du pays concerné, mais on a bien voulu limiter cela à des cas d'exception. C'est pourquoi on a précisé que c'était dans des situations de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Ce sont des principes moraux qui justifient que l'on intervienne.
Est-ce qu'il est facile d'apporter une légitimité à ces décisions?
Je crois que dans le cas de la Libye, par exemple, personne n'a douté de la justification de l'application de ce principe. Puisque, contrairement à ce que certains pourraient croire, ce sont des initiatives qui viennent en général de l'Occident, la résolution sur la Libye a été proposée, demandée par les pays de la Ligue arabe, c'est-à-dire les voisins de la Libye, les pays qui se disent habituellement frères, ont estimé que ce qui se passait en Libye ne pouvait être soutenu même par ceux qui sont les amis de la Libye. Et c'est pourquoi assez rapidement on a pu obtenir cette résolution, parce que lorsqu'un gouvernement envoie même ses avions de chasse contre de la population non armée qui manifeste en ville, on ne peut plus hésiter, on ne peut plus douter. Donc le cas de la Libye n'a pas été un problème à ce niveau, c'était plutôt au moment où on a mis en pratique, puisque ce ne sont pas des troupes de l'ONU, mais des troupes de pays membres qui ont été mobilisées. Mais cela, à mon sens, n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. On est dans le premier cas d'application d'un principe nouveau et il est donc normal qu'il faut faire ces premières classes, si je puis dire, pour parvenir progressivement à une politique qu'on peut appliquer plus largement. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi certains pays ont été plus réticents par rapport à d'autres cas qui pourtant présentent les mêmes caractéristiques. Je veux parler notamment de la Syrie, où manifestement, aujourd'hui même, des pays arabes, voire l'Iran, demandent au président syrien de cesser enfin sa façon violente d'aller à l'encontre de manifestants qui ne sont pas armés.
Croyez-vous que la réforme du Conseil de sécurité puisse aboutir? Et surtout, à quand cette réforme du Conseil de sécurité?
Elle doit aboutir parce que sans cela, les Nations Unies vont perdre progressivement leur crédibilité. Les discussions que j'ai pu lancer, notamment dans mon groupe d'amis, ont montré que maintenant nos membres sont de plus en plus prêts, disposés à mener une véritable discussion de négociation. Et finalement, le problème n'est pas si complexe que cela, à mon sens. Peut-être faut-il l'employer par le plus facile pour aller au plus difficile. Tout le monde est d'accord qu'il faut augmenter le nombre de membres. Tout le monde peut voir que ça ne peut pas être n'importe quel nombre. Donc, il est relativement facile de dire quel doit être au total le nombre de membres du Conseil de sécurité. Deuxièmement, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine qui sont sous-représentés. Donc, où vont ces nouveaux mandats essentiellement dans ces trois régions? Encore un élément où, à mon avis, une négociation doit pouvoir parvenir à un résultat. Il y a la question de la méthode de travail du Conseil de sécurité. C'est un domaine vaste, mais je pense que là, on peut trouver un certain nombre d'éléments où tout le monde peut se mettre d'accord pour améliorer l'efficacité du travail. Alors, il ne reste plus que la dernière question, plus litigieuse, mais peut-être qu'elle peut encore attendre un peu, au travers d'une solution évolutive et transitoire, c'est de savoir si nous voulons de nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité ou seulement des membres non permanents. Et en ayant répondu à cette question, éventuellement se posera encore la question du veto. Donc vous voyez que, en soi, le problème n'est pas si complexe, pour autant qu'on veut procéder systématiquement.
Sur un tout autre registre, en fait, quelle a été votre plus grande émotion lors de votre mandat?
Il y a eu des émotions à un niveau global ou important lors d'événements tels que celui de l'admission du Soudan Sud, parce que ça m'a rappelé ce que j'ai vécu pour mon pays il y a 9 ans seulement, dans la même salle, en tant que ministre des Affaires étrangères à l'époque de mon pays. Donc il y a eu là à la fois l'émotion pour le Soudan, mais aussi l'émotion du Suisse qui se rappelle les souvenirs qui lui sont importants et chers. Et il y a aussi eu des émotions au niveau des personnes. Ça peut être un membre, ça peut être quelqu'un que j'ai rencontré. L'une des émotions fortes que j'ai vécues, c'était au Japon. J'y avais été pour le sommet de la biodiversité à Nagoya. Il restait un jour de libre et les Japonais m'ont demandé ce que je voulais faire. Et il m'a semblé important que j'aille à Hiroshima pour montrer que, sur ce sujet, en tout cas, le président de l'Assemblée générale a une opinion très claire, qui est celle de parvenir à un monde sans armes nucléaires. J'ai pu rencontrer sur place des survivants des bombardements de Nagasaki et de Hiroshima. Et c'est évidemment une rencontre qui ne peut être autre que très fortement émotionnelle.
Avez-vous des conseils pour le prochain président?
Le seul conseil que je lui donnerais est d'être lui-même, de se faire un objectif personnel de ce qu'il veut atteindre et ensuite de tenir sa ligne. C'est lorsqu'on est en accord avec soi-même qu'on est le mieux à même de faire du bon travail.
Merci beaucoup, Monsieur Deiss.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est avec un Joseph Deiss bien en accord avec lui-même que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine à la vision de Joseph Deiss sur l'Assemblée générale et au bilan de sa présidence de cet organe de l'ONU. Un magazine préparé et présenté par Christina Silvero avec l'assistance de Florence Westergaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.